carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
La collection d'estampes japonaises de Claude Monet. Le peintre Claude Monet fut un grand collectionneur d'estampes japonaises et sa collection fait actuellement l'objet à Paris d'une superbe exposition au musée Marmottan. Et cette émission lui est consacrée. Pour Carrefour des Arts, c'est l'occasion de croiser les routes de deux continents et de proposer le regard d'un grand impressionniste sur cet art majeur du soleil levant. Nous recevons Marianne Delafont, conservateur et également co-auteur avec Geneviève Aitken du catalogue raisonné de cette remarquable collection. Madame Marianne Delafont, bonjour.
Bonjour.
Dans la préface de ce catalogue, Gérald van der Kemp, membre de l'Institut et conservateur de la Fondation Monet à Giverny, vous rend hommage en disant, et je le cite, « Geneviève Aitken et Marianne Delafont ont établi avec la plus grande rigueur ce catalogue scientifique des estampes japonaises collectionnées par Claude Monet et conservées dans sa maison à Giverny. Cela est un événement qui aura son retentissement chez tous les spécialistes de l'impressionnisme comme chez les connaisseurs de l'art japonais. » On ne peut que souligner la pertinence de ce compliment en feuilletant ce catalogue. Il est en effet riche d'enseignements sur cet art, un art dont notre Occident n'a pas fini de découvrir l'immense valeur. Marianne Delafont, vous êtes donc devenue spécialiste de l'art japonais et d'estampes en particulier. Par quel cheminement vous est venu cet amour de l'art nippon ?
Disons qu'après mes études d'histoire de l'art, j'ai eu la chance de travailler chez Huguette Berès, qui était une des grandes spécialistes de l'art japonais à Paris. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant plusieurs années au milieu des estampes japonaises. Après, j'ai souhaité pouvoir travailler sur la collection d'estampes japonaises de Claude Monet. Monsieur van der Kempf a trouvé que ce projet était très positif et nous a soutenus dans notre travail. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressée à la fois aux estampes japonaises, bien sûr, mais à Claude Monet en plus particulier.
Oui, donc venons-en alors à la collection d'estampes. Et sans doute est-il bon d'abord de préciser ce terme. Qu'est-ce qu'une estampe ? Et quel en est le procédé ? Parce qu'il paraît extrêmement complexe. Que pouvez-vous nous en dire, Marianne Delafont ?
Alors, les estampes japonaises sont des gravures sur bois. Et en fait, les grands maîtres de l'estampe japonaise, Hiroshige, Okusa et Utamaro, étaient des peintres ou des dessinateurs, mais ils n'étaient pas les graveurs. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'art de la lithographie. Ils fournissaient aux graveurs un dessin pour leur estampe, et en fait, plus particulièrement, plusieurs dessins, puisqu'à chaque couleur correspondait non seulement un dessin, mais un bois. C'est-à-dire que le graveur gravait une planche en bois pour, disons, la couleur noire, une planche en bois pour la couleur rouge, etc. Donc, s'il y avait 8 couleurs, il y avait 8 planches en bois. Après cela, il prenait une feuille et donc on passait la première couleur, la deuxième, la troisième, comme le procédé de la lithographie.
Oui. Donc le dessinateur signe
son estampe. Fois qu'il y a eu tous les passages, c'est-à-dire qu'une fois que le graveur a terminé son travail, il y avait la signature d'Hiroshige, d'Okusai ou d'Utamaro, plus en général un sceau qui était le sceau de l'époque, du censeur, puisqu'à l'époque il y avait des censeurs, et parfois, plus tard, le sceau des collectionneurs, parce qu'il y a eu des grands collectionneurs d'estampes japonaises, aussi bien au Japon qu'en France, qui ont rajouté sur les estampes leur sceau. Mmh. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est le nombre de tirages qu'il y a eu. On peut, à l'œil, une fois qu'on a pris l'habitude de regarder les estampes, de voir si c'est un bon tirage ou bien si ce n'est qu'un tirage en fin de course, si je puis dire, puisque les bois finissent quand même par s'user.
Oui.
Mais il n'y a pas de nombre d'estampes. On ne sait pas combien d'exemplaires ont été tirés pour chaque estampe.
Oui, ça c'est absolument impossible à savoir.
On ne sait pas.
Oui, il est vrai que cette tradition existe depuis bien longtemps au Japon. Et ça a d'ailleurs longtemps été ignoré en Europe. C'est seulement les grands noms qui ont fini par percer jusqu'au public européen, comme vous venez de les citer, Hiroshige, Hokusai ou Utamaro. Et en quoi ceux-là sont-ils plus exceptionnels que d'autres depuis les siècles précédents? Et aussi, justement, depuis quelle époque précisément a commencé cette forme d'art dans la tradition japonaise?
Alors, ça a commencé très tôt. D'abord, c'était des estampes en noir et blanc. Et puis, le premier qui a créé, disons, les estampes en couleur, c'était à Runobu, 17e siècle. Mais ça a commencé bien plus tôt. Simplement, si vous voulez, en France et en Europe, du reste, sont arrivées d'abord les estampes qu'on appelle tardives, c'est-à-dire après Utamaro, Hiroshige, Hokusai, puisque c'était des estampes qui étaient contemporaines de l'époque où on a découvert les estampes japonaises en France. Et quand on a découvert les estampes japonaises en France, les grands maîtres de l'estampe japonaise étaient déjà morts, leur carrière était déjà terminée. Et ce n'est qu'après qu'on a découvert en France Hiroshige, Hokusai, Utamaro, Charaku, enfin ce qu'on considère aujourd'hui comme les grands maîtres de l'estampe
oui,
japonaise.
Qui était à l'apogée de cet art, oui. Quand on regarde donc cette exposition au musée Marmottan, c'est absolument une merveille de découvrir cette variété. Et quand on comprend, d'après vos explications, le procédé assez laborieux, parce que quand on imagine donc à partir des traits extrêmement fins, il y a bien eu le graveur qui a essayé de... Comment pourrait-on appeler creuser
ça, oui, champvelée. Oui,
comment
creuser, champvelée.
Champvelée.
Oui.
D'accord. Donc creuser.
Creuser
tout ce
le
qui,
bois, oui,
tout
oui.
Ce qui.
Tout ce qui ne doit
gêne,
pas être. Voilà.
Et pour faire ressortir le trait, extrêmement fin.
Oui.
Alors, c'est un travail vraiment très laborieux.
D'une finesse extraordinaire.
D'une très, très grande finesse. Oui. Et c'est tout de même le dessinateur qui a toute la gloire et le graveur, lui, il disparaît un peu comme l'artisan inconnu.
Oui. C'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
Et après, il y avait encore le passage de l'imprimeur.
C'est ça.
En fait,
ça.
Trois métiers qui œuvraient aux estampes. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de reprendre notre entretien avec Marianne Delafont sur le sujet des estampes japonaises.
Thank you.
Nous sommes en compagnie de Madame Marianne Delafont, conservateur au musée Marmottan à Paris. Ce lieu a le privilège d'héberger actuellement, encore jusqu'au mois de mars 2007, l'exposition exceptionnelle de la collection d'estampes japonaises rassemblée par Claude Monet. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le Japon a suscité en France un mouvement général de curiosité. Pas seulement en France d'ailleurs, puisque le japonisme a été très en vogue dans les milieux artistiques européens. Alors, comment s'est opérée cette rencontre de deux cultures? Et puis aussi, comment ces artistes ont-ils découvert l'art japonais, Marianne Delafont?
Bien, comme vous le savez, le Japon a été fermé au monde pendant presque deux siècles. Et c'est le commodore Matthew Perry qui est venu avec ses bateaux et qui a, disons, forcé le Japon à se rouvrir à l'Occident en 1854. À partir de ce moment-là, l'art japonais a commencé à arriver aussi bien en Hollande qu'en France, en Angleterre. Et les premières estampes, pour ne parler que des estampes, puisqu'il y avait aussi des objets, des poteries, d'autres choses qui sont arrivées. Mais puisque notre sujet, c'est les estampes japonaises, pour ne parler que des estampes, les premières estampes ont été vues lors des expositions universelles. Donc la première exposition universelle de 1867 et puis celle de 78. Et petit à petit en France, un certain nombre de boutiques qui à l'origine étaient plus spécialisées dans l'art chinois ont commencé à se spécialiser dans l'art japonais, notamment la boutique de Madame Dessois, la boutique des frères Sichel, etc. Et plusieurs écrivains et collectionneurs sont partis au Japon, ont fait le voyage du Japon, notamment Duret, Cernucci et d'autres. Et sont revenus en France et ont raconté dans des livres leurs souvenirs, leurs découvertes du Japon. Et ça a passionné à la fois les écrivains, Baudelaire, les Goncourt, les peintres, puisque Manet, Degas, Monet, Pissarro, tous ont commencé à s'intéresser à cet art et à collectionner les estampes japonaises. Ils se retrouvaient souvent chez Bing pour choisir des estampes japonaises.
Oui, Samuel Bing.
Samuel Bing qui a joué un rôle très important. Il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur l'art japonais, notamment par Louis Gons, un ouvrage très important où il parle de toutes les formes de l'art japonais. Et puis, il y a un certain nombre de Japonais qui sont venus s'installer en France, c'est-à-dire Hayashi notamment, qui était un homme qui pouvait en fait faire des traductions, notamment pour les Goncourt, puisque les Goncourt ont écrit deux livres, un sur Hokusai et un sur Otamaro, grâce à Hayashi.
Qui fait toujours autorité au jeu de
font
celui
toujours
de
autorité.
Edmond de Goncourt. Oui.
Et ces livres, Edmond de Goncourt a pu les écrire grâce à Hayashi, puisque c'est Hayashi qui lui a traduit tous les textes du japonais vers le français. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Hayashi a aidé notamment Monet à choisir, à comprendre les estampes japonaises, mais lui s'intéressait à l'art européen et notamment aux impressionnistes. Et il a acheté des œuvres impressionnistes qu'il a ramenées au Japon. Un autre de ces Japonais, qui était un grand industriel, qui est Matsukata, est venu en Europe aussi. Lui aussi s'est intéressé à l'art des impressionnistes. Il y a eu un espèce d'échange entre le Japon et la France, pour ne parler que de la France. Et donc, ces deux grands personnages japonais qui vivaient, pas Matsukata, parce que Matsukata venait souvent en France, mais Hayashi a vécu très longtemps en France, avaient, eux, le désir de créer au Japon des musées qui seraient ouverts à l'art impressionniste. Malheureusement, comme pour l'un comme pour l'autre, ce rêve n'a pas pu se réaliser de leur vivant, puisqu'il y a eu des problèmes de succession, de choses comme ça, qui ont fait que sur le moment, le musée dont ils avaient rêvé ne s'est pas ouvert. Il s'est ouvert plus tard, et maintenant, les sublimes monnaies qui sont à Tokyo au musée d'art occidental viennent de la collection Matsukata.
Ah oui, c'était un coup de foudre artistique,
une vraie rencontre oui.
De frères d'âme.
Alors, pour ce qui est de Monet et de sa découverte des estampes japonaises, Il a découvert les estampes japonaises en 1871 quand il était en Hollande avec son ami Octave Mirbeau.
En Hollande, où les Japonais avaient déjà pris pied, en quelque
Oui,
sorte,
absolument.
grâce à la Compagnie des Indes ou de
Absolument.
l'Orient. Oui.
Voilà. Donc Octave Mirbeau a raconté cette découverte. Bon, il l'a un peu romancée dans un fameux livre qui s'appelle la E628, qui est en fait le nom d'une voiture. Mais plus tard, comme les Goncourt, Braquemont et d'autres ont tous voulu être les premiers à avoir découvert les estampes japonaises, Monet a un peu changé sa version sur la fin de sa vie. Il a dit que non, non, il avait découvert les estampes japonaises quand il avait 15 ans et qu'il était au Havre. Ça, c'est pas possible chronologiquement. Donc, on va en
Parce que
rester à
ça
la
correspond,
version. C'est trop tôt.
c'est trop
Les
tôt. Ça
estampes
correspondait à
japonaises
l'époque où le Japon, à la
étaient
limite, n'était
fermées.
pas, voilà,
Voilà.
n'était pas encore ouvert
Donc, on va garder
aux
sa
Occidentaux.
version de 71 qui probablement, enfin, semble la plus plausible en tout cas.
Oui. Enfin, il y a cette légende qui dit qu'il a découvert les estampes japonaises dans un papier en
Oui.
achetant, je ne sais pas, peut-être du poisson
Oui,
en
oui.
Hollande
Alors ça,
et en déroulant ce
je sais
paquet.
pas c'est comment il a vraiment découvert ces estampes en Hollande, mais en tout cas, la date de 1871 paraît parfaitement
Semble la plus
plausible. Ouais, ouais.
plausible, oui.
Alors après, la question est de savoir comment Monet est-ce qu'il a acheté ses estampes, est-ce qu'il a fait des échanges? Il y a plusieurs choses. Il est certain qu'il en a acheté. Il est aussi certain qu'il a échangé des estampes, notamment avec Hayashi, contre des tableaux.
Qui maintenant se trouve donc au Japon.
Voilà. Et alors, du reste, sur plusieurs de ces estampes figure le cachet de la collection Hayashi.
On peut vraiment dire que le Japon entre dans l'art universel, peut-être grâce à des maîtres de la peinture française.
Oui, peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont tous
Ne
pour...
soyons pas trop
Non,
modestes.
c'est sûr que pour tous, ça a été une découverte extraordinaire. Et je pense que le mot de Pissarro, sortant d'une des grandes expositions d'estampes japonaises qu'il y avait eu à Paris, en disant que ces Japonais le confortaient dans son parti pris visuel, c'est quelque chose qui s'applique un peu à tous ces peintres impressionnistes. C'est-à-dire qu'ils ont découvert, en découvrant cet art, ils ont découvert des artistes qui avaient pour certaines choses les mêmes préoccupations qu'eux et qui faisaient les mêmes recherches.
Ça me fait penser à une phrase que j'ai trouvée qui semble vraiment bien décrire cette même sensibilité entre ces deux formes d'art. Donc, il est question de la tradition orientale et de la contemplation philosophique de la nature, qu'on retrouve évidemment formidablement chez Claude Monet.
Oui. Non, ce qui est, ça, c'est évident. Ce qui rapproche Monet des grands maîtres de l'estampe japonaise, c'est la nature.
Oui.
C'est l'appréhension du paysage. Alors, Monet a été très loin dans sa relation par rapport au Japon, si on peut dire, puisqu'il a créé, on le sait bien, son jardin de Giverny, dont il disait que c'était son plus beau chef-d'œuvre. Et c'est pas par hasard qu'il y a fait construire un pont japonais
Dans le jardin
dans le
d'eau, donc,
jardin d'eau.
oui,
C'est pas par
à
hasard qu'il
Giverny.
a beaucoup écrit à des Japonais qui lui envoyaient des plantes du Japon. Et même, c'est assez étonnant du reste, parce qu'on oublie ça, mais quand on lit la correspondance de beaucoup de ces artistes, que ce soit des écrivains ou des peintres, que ce soit Caillebotte ou Octave Mirbeau, c'était des gens qui étaient absolument passionnés par l'horticulture. Et Caillebotte, dans une lettre à Monet, dit: oui, venez, je suis content que vous veniez. Non, c'est Octave Mirbeau qui dit à Monet: je suis content que vous veniez me voir. De toute façon, la seule chose qui est importante, c'est le jardinage. Tout le reste n'a pas d'importance.
Et Dieu sait si Claude Monet s'est donné du mal pour
Oui,
son jardin
quand
et
on
pour
lit ses lettres, il était
creuser le.
constamment préoccupé par son jardin, de savoir si les jardiniers n'avaient pas oublié de s'occuper de telle plante, s'ils avaient planté telle autre. Donc ça avait une très très grande importance.
Il paraît qu'il venait rêver au jeu subtil de l'eau et de la lumière dans son jardin et au bord de cet étang bien célèbre
Bien
à Giverny.
célèbre.
Oui. ça ne nous étonne pas qu'il y ait eu cette rencontre magnifique entre le Japon et les impressionnistes français. À tel point, justement, que Claude Monet a développé une passion pour devenir un des plus grands et importants collectionneurs d'estampes.
Alors, si on sait donc que la plupart des peintres impressionnistes ont collectionné des estampes japonaises, y compris les sculpteurs comme Rodin. Les collections qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui, il y en a deux qui sont importantes, c'est celle d'Auguste Rodin, qui est toujours conservée au musée Rodin, et celle de Monet. Mais celle de Monet est, je dirais, plus complète parce qu'elle couvre vraiment tous les champs de l'estampe japonaise, depuis les débuts de l'estampe en couleur, c'est-à-dire à Renoubou, jusqu'à quelque chose qui est très étonnant, ce sont les scènes de la guerre sino-japonaise, qui sont, quand on les regarde, presque comme de la BD actuelle.
Absolument, oui. Mais on va peut-être détailler tout à l'heure les différentes salles au musée Marmottan pour faire un éclairage plus détaillé sur les estampes japonaises qui sont exposées là-bas. Mais oui, en effet, sa collection comporte tout de même 231 gravures, essentiellement des ukiyo-e. Et vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est.
Ukiyo-e, c'est le terme que les Japonais ont donné à cet art. C'est-à-dire, ça se traduit soit par l'art de monde flottant ou l'art du temps qui passe. Les estampes du temps qui passe. Et ça correspond exactement à ce que c'est-à-dire capter un instant. C'est la même chose, que ce soit pour un paysage d'Okusai ou d'Hiroshige ou pour le portrait d'une jeune femme, c'est capter un instant dans la vie qui passe. Et quelque part, ça rejoint ce que Claude Monet a essayé de faire à la fin de sa vie, quand il a regardé son étang tous les jours en essayant de capter les instants. C'est la même chose. On peut dire aussi que si Claude Monet a tellement aimé Okusai et Hiroshige, qui sont donc les grands paysagistes de l'estampe japonaise, c'est peut-être parce que en France, à l'époque, vous savez qu'il y a eu la grande nouveauté, c'était le chemin de fer, ce qui leur a permis donc de voyager, d'aller voir d'autres paysages. Et Okusai et Hiroshige, c'était ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de capter des paysages d'un divers célèbres ou moins célèbres à divers endroits du Japon pour ceux qui ne pouvaient pas voyager.
Oui, vous parliez de Claude Monet et son amour pour Hokusai et Hiroshige. Il dit une phrase, le motif est pour moi chose secondaire, ce que je veux reproduire, c'est ce qu'il y a entre le motif et moi. On croit pouvoir reconnaître cette relation très intime, justement, chez les artistes japonais. Quand on voit par exemple le mont Fuji, il y a beaucoup, beaucoup de vues du mont Fuji. Par exemple, chez Hokusai, c'est comme un instant, ça rappelle en effet peut-être l'Énaphéa de Claude Monet.
Oui, ou alors ces fameuses séries.
Bien que d'un motif totalement différent.
Oui, absolument. Ou ces fameuses séries, puisqu'on sait que Monet a fait le même motif à différentes heures du jour, que ce soit la cathédrale, les fameuses meules, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a là aussi quelque chose qui parlait à Monet, qui correspondait aux recherches qu'il a faites. Alors, Monet n'est jamais allé au Japon, mais il s'est imaginé un Japon. Et donc, quand il est allé voir son beau-fils qui était en Norvège, il y avait une montagne qui s'appelle le Mont Kolza, et il y a une lettre très célèbre où il écrit à sa femme en lui disant « Je suis en train de peindre une montagne qui ressemble au Mont Fuji ». Mais le mont Fuji, pour Monet, c'était le mont Fuji de Hokusai.
De Hokusai, oui. Et Dieu sait que c'est merveilleux. Donc je vous propose ici, pour reprendre notre souffle, une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours avec Marianne Delafont, conservateur au musée Marmottan, grâce à qui nous pouvons pénétrer plus profondément le monde de Claude Monet et son amour des estampes japonaises. Je suggère que pour nos auditeurs, vous nous fassiez peut-être maintenant une visite guidée de la collection Monet d'Ukiyo et que vous venez de décrire. Je rappelle qu'elle est actuellement donc visible à Paris au musée Marmottan, avant d'être dispersée à nouveau à travers différents lieux et notamment à sa maison de Giverny. Donc, commençons par la première salle consacrée à Utamaro.
Oui, donc nous avons essayé de présenter cette collection par thème. Il y a plusieurs thèmes dans les estampes japonaises, les portraits de femmes, dont Utamaro est le grand artiste, les paysages, et puis les scènes de kabuki et portraits d'acteurs, plus un certain nombre d'estampes consacrées aux fleurs, aux poissons, voilà.
Papillons. Etc., ouais.
Donc la première salle est consacrée aux portraits de femmes, avec énormément d'estampes de Utamaro, qui a été le grand portraitiste des femmes dans l'art de l'estampe, les courtisanes. Alors, ces courtisanes habitaient en général dans des quartiers réservés à Edo à l'époque, qui aujourd'hui est Tokyo.
D'ailleurs, il y a une période Edo.
Il y a une période Edo, exactement.
À laquelle, je crois, ça a commencé.
Voilà, ça correspond à l'âge d'or de l'estampe japonaise. Oui. Et donc, ces femmes sont représentées dans leurs activités journalières, soit dans les maisons en train de se maquiller, ou bien arrangeant des fleurs, ou bien alors dehors où elles allaient, par exemple, assister à des fêtes, puisqu'il y avait de nombreuses fêtes à l'époque, ou bien chasser les lucioles, ou bien pêcher au lamparo. Donc,
elle n'était pas à l'usine.
Non,
Oui, il y a beaucoup de miroirs, de coiffage, donc les cheveux,
oui.
L'eau, les miroirs, les drapés, ça a beaucoup d'importance.
Ça a beaucoup d'importance. La seule chose que Monet n'a pas collectionnée, mais qui existe quand même, ce sont les estampes d'Ichunga, c'est-à-dire les estampes érotiques. Il y en a notamment d'Utamaro qui sont absolument magnifiques.
Les fameuses estampes japonaises.
Les fameuses estampes japonaises.
Qui ne sont pas dans la collection Monet.
Qui ne sont pas dans la collection Monet, il n'y en a pas. Mais sinon, ça donne une idée de la vie à l'époque dans ces quartiers réservés.
Oui, il aimait surtout les estampes quand même, comme vous venez de décrire, les estampes d'Utamaro, notamment des geishas, etc. Mais surtout, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les estampes de la nature,
cet
instant de contemplation.
Ce qu'il a le plus collectionné, c'est évidemment les paysages. Donc, nous passons dans la salle suivante, qui est la salle qui est consacrée au Kusai. Cette salle est très remarquable dans le sens où Monet avait pratiquement la collection complète des vues du mont Fuji, qui est une série assez rare, et la série qu'il avait était de très grande qualité.
Absolument, je confirme.
Et puis, alors on voit aussi la série qui est consacrée aux cascades, qui est aussi très impressionnante sur le plan de la mise en page. Parce que ça, c'est une chose qui a beaucoup intéressé les peintres impressionnistes, c'est cette nouvelle mise en page, qui était très différente de la mise en page classique à laquelle ils étaient habitués quand ils peignaient, ou à l'école, ou ce qu'on leur enseignait à l'école des beaux-arts. Alors, c'est difficile à dire si c'est les estampes japonaises ou la photographie, puisqu'à l'époque, il y avait aussi les débuts de la photographie, avec aussi des nouveaux cadrages et des nouvelles mises en page.
Oui.
Donc, tout ça a joué un rôle. Mais ce qui est certain, c'est que ça correspondait à quelque chose qui les intéressait et à quoi ils s'intéressaient, cette nouvelle mise en page. Et puis après, donc, nous arrivons Hiroshige, dans la salle où il y a tous les Hiroshige. Alors, Hiroshige, visiblement, était l'artiste que Monet préférait. Il y a pratiquement toutes les séries d'Hiroshige, bon, pas toujours complètes, mais enfin, pour quelqu'un qui souhaiterait découvrir les estampes japonaises, cette collection donne un échantillon extrêmement riche de ce que sont les estampes japonaises, de tous les sujets que l'estampe japonaise traite. Donc c'est vraiment très étonnant, très surprenant. Et donc après les estampes d'Hiroshige, qui sont donc des vues soit de paysages connus, soit de paysages tout à fait inconnus, mais toujours animés par des petits personnages. Ce qui, par contre, est quelque chose qu'on ne retrouvera pas chez Monet, puisque Monet s'est très vite détourné du portrait et de la représentation de l'être humain.
Oui, par exemple, on trouve peu d'acteurs de kabuki dans sa collection.
On en
qui était,
ouais,
par contre, assez fréquent dans d'autres collections,
voilà,
je crois. Oui.
On en trouve très peu. Par contre, ceux qui sont là, c'est-à-dire les estampes de Charaku. Charaku est un artiste qui a été actif pendant à peine un an, qui a fait très peu d'estampes, qui sont extrêmement rares et tout à fait saisissantes. Elles sont, pour nous, elles annoncent presque quelqu'un comme Toulouse-Lautrec, avec leur force, avec leur
expressivité.
Et c'est donc que Monet était bien conseillé, parce que c'est des estampes qu'on trouve très rarement dans les collections européennes, plus tard, mais à cette époque-là, très rarement. Bon, il y a ces portraits en buste de Charaku, mais il y a aussi quand même un certain nombre de scènes. Alors, le théâtre Kabuki, c'était donc à l'époque, ça existe toujours bien sûr, mais il y avait deux théâtres au Japon, il y avait le théâtre No et le théâtre Kabuki. Et il y a énormément de scènes d'estampes japonaises qui représentent des scènes de théâtre kabuki, alors soit les acteurs, des portraits d'acteurs, soit carrément des scènes de théâtre. Et finalement, quand on présente toute la collection de cette façon, on s'aperçoit qu'il y avait pas mal de scènes de théâtre quand même. C'est probablement ce qu'il a dû acheter au début de sa collection. Et puis alors, il y a aussi à la fin, ce qui est plutôt, ce qui a plutôt un côté anecdotique, mais ce qui est amusant, ce sont les étrangers qui étaient au Japon. C'est-à-dire que pendant que le Japon était fermé au reste du monde, il y avait quand même deux endroits qui étaient Nagasaki et Hiroshima, où il y avait des colonies de Hollandais qui avaient le droit de cité. Et il y a un certain nombre d'estampes qui représentent ces étrangers, leurs coutumes, etc.
Les
Les
réceptions,
réceptions,
oui,
voilà,
très très
très
mondaines
mondaines,
et très occidentales
très
finalement, oui.
occidentales. Et donc Monet avait aussi quelques estampes de cette époque.
Sadaide, par
Par
exemple,
exemple, Sadaide, oui.
ou Kunisada.
Kunisada aussi a fait.
Oui, c'est d'ailleurs extrêmement coloré. Et quand
Oui.
on revient à votre explication de la fabrication des estampes, avec toutes les couches de différentes couleurs, c'est quand même un travail vraiment extraordinairement élaboré et très précieux. Parce que non seulement les traits sont fins,
Oui.
mais aussi il y a énormément de couleurs, donc ça donne une œuvre extrêmement raffinée.
Oui. Alors, ce qu'on peut dire à ce propos, quand même, pour la collection d'estampes japonaises de Monet, c'est que malheureusement, pour ce qui est des estampes d'Utamaro, notamment, pas pour Hokusai ni Hiroshige, mais pour Utamaro, couleurs ont passé. Parce qu'elles ont dû être exposées à une époque au soleil. Et normalement, la plupart de ces estampes ont des couleurs absolument somptueuses, notamment dans les habits des femmes. Et là, il reste plus rien. Il y a le trait, il reste le
Ouais,
noir,
c'est un peu délavé,
mais
ouais.
oui, malheureusement. Parce que si on voit des épreuves où les couleurs sont encore fraîches, c'est tout à fait extraordinaire.
Oui. Par contre, chez Hokusai, c'est assez bien
Chez
conservé.
Hokusai et Hiroshige, il n'y a pas de problème.
Oui. En tout cas, il a été bien inspiré quand même, notre Claude Monet
Notre...
national, de s'être ouvert à cet art du
Oui.
soleil levant. Écoutez, on arrive malheureusement au terme de notre visite de l'exposition d'estampes japonaises au musée Marmottan à Paris. N'oublions pas de signaler que cette collection de Claude Monet est entrée dans le patrimoine de l'Académie des Beaux-Arts, donc à l'Institut de France, grâce au legs de Michel Monet, le second fils du célèbre impressionniste. Un grand merci à vous, Marianne Delafont,
Merci à vous.
de nous avoir prêté votre regard pour nous ouvrir, même radiophoniquement, à l'esprit et à la surprenante dimension culturelle de ces merveilles que sont les estampes japonaises. Et au plaisir d'une prochaine rencontre pour une émission de Carrefour des Arts sur Canal
Très
Académie.
volontiers.